bouillon d'Ecture. Bouillon d'Ecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, confortablement installé chez vous en écoutant la lecture d'extraits choisis habituellement par Hervé ou Catherine. Et exceptionnellement, c'est aujourd'hui une émission particulière, on va y revenir. Catherine n'est pas là, et donc bonjour Hervé.
Bonjour.
Et nous avons une invitée dans le studio. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Suzanne, tu es chanteuse et accordéoniste, c'est ça ?
C'est ça.
Accordéoniste, tu y tiens ?
Oui, bah oui, j'y tiens, bien sûr.
Alors, expliquez-nous pourquoi nous sommes là. En quoi l'émission est exceptionnelle ?
Qui est-ce qui préfère répondre ? Toi, Suzanne, ou moi, Hervé ?
Bon, je peux répondre.
Allez, vas-y, Suzanne.
En fait, on est ici pour enregistrer une émission dans le cadre de la Journée internationale du droit de la femme. Et cette journée a lieu officiellement, si je ne me trompe pas, le 8 mars.
Mais c'est exactement ça.
Oui, tout à fait.
Mais elle va durer toute la semaine à Blois.
C'est ça. Et lorsque vous écoutez cette émission, nous sommes en fait le 10 mars.
Exactement.
Si j'ai bien suivi.
Ça va être assez compliqué, oui, c'est vrai.
Et nous l'enregistrons avant. Oui, oui, mais ça n'est un secret pour personne, c'est pas grave.
Dominique, est-ce que tu me permets d'essayer d'expliquer pourquoi il y a cette journée du 8 mars ?
Allez, allons-y. Un petit peu d'histoire et de pédagogie.
C'est né en Russie, en 1917. En 1917, il y avait des ouvrières à Saint-Pétersbourg qui se sont révoltées pour réclamer du pain et de la paix. Elles ont fait toute une marche. Et donc, après cette journée de révolte, eh bien, Lénine, c'était le président russe de l'époque, a décidé de transformer cette journée du 8 mars en une journée de commémoration pour les femmes. Et puis, après ça, ce sont les Nations Unies qui s'y sont mis et qui ont décidé de commémorer cette journée. Mais c'était beaucoup plus tard, hein, beaucoup plus tard, dans les années 70, 60 ans après Lénine, donc. Et puis la France, dans tout ça, on pourrait toujours penser que la France, n'est-ce pas, Dominique, est toujours en avance sur les droits des uns et des autres.
Les droits des individus ?
Eh bien, absolument pas du tout, puisque cette journée des droits de la femme n'a été reconnue qu'en 1982, par Yvette Roudy.
Je me souviens. Je me souviens, en 82, j'y étais.
Oui, les autres personnes dans le studio, non, mais nous, oui, les deux anciens. Yvette Roudy, c'était une ministre sous le gouvernement Mitterrand, je tiens à le rappeler quand même. Voilà. Et puis après, on pourrait se douter que la fameuse Simone veille à tous ses droits, eh ben non, Simone, elle a disparu. Et donc, il est important, tous ces droits acquis pour des minorités, je dirais, enfin des minorités, là, c'est pas une minorité, mais là, on parle des droits de la femme, mais également des minorités homosexuelles, etc., etc. Eh bien, il est important de se commémorer tous les ans, quand même, pour conserver ces acquis.
Tout à fait.
Voilà. Nous sommes donc dans ce cadre-là aujourd'hui.
Oui.
D'ailleurs,
j'étais étonné quand tu as parlé de Russie, je me suis dit Poutine aurait créé une journée de la femme.
Alors,
ça ne correspondait pas avec le personnage.
Non, ça ne correspond pas avec le personnage. Mais n'empêche, tiens, d'ailleurs, à ce propos-là, regardez ce qui devient de certains droits. Et donc en Russie, tu viens de le dire, mais en Iran, en Afghanistan, au Brésil.
Et même
au Mexique.
Et même aux États-Unis.
Et même aux États-Unis, ben oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà.
Et il y a encore des choses à acquérir en France.
Et il y a encore des choses à acquérir en France, oui. Exactement.
C'est une bataille de chaque jour.
Tout à fait.
Donc, nous avons décidé, avec un ami qui s'appelle Hervé Elec, mais qui n'est pas présent aujourd'hui, de commémorer ce droit par Émilie, on dit quoi ?
Une soirée de lecture.
Soirée de lecture, voilà, une soirée de lecture que nous allons faire. Ce qui est rigolo, c'est que nous allons la faire dans le passé.
D'accord. Les charmes de l'enregistrement à la radio.
Une soirée de lecture de textes érotiques.
Et sensuels.
Et sensuels.
Ça va souvent ensemble.
Mais on peut rajouter encore, non pas du tout dans l'état d'esprit de la femme objet, pas du tout, n'est-ce pas?
Oui, parce que, à premier abord, ça peut sembler un peu curieux de lire des textes érotique le jour de la journée de la femme.
Alors là, c'est fondé sur le désir des femmes, de la femme en tant que sujet, dans le respect. Parce que oui, messieurs et mesdames, les femmes ont des envies et j'espère qu'elles les assumeront de plus en plus.
Bien.
Ah, comme c'est bien dit, il y a un silence.
On y va, on commence ?
Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste. Sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et affaire de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-vous.
À partir de quel âge s'intéresse-t-on au corps des garçons ? Renseignement pris, quasiment dès le berceau. C'est-à-dire aussi loin que les souvenirs remontent. Florilège. J'avais un frère, 2 ans plus âgé que moi, et je faisais n'importe quoi pour essayer de le surprendre tout nu. J'arrivais, à pas de loup dans la salle de bain, j'ouvrais la porte des toilettes soi-disant par distraction, ou dans nos jeux, j'essayais de le salir tellement qu'ils doivent se changer complètement. Quand j'avais 6 ou 7 ans, j'ai complètement flashé sur le premier corps d'homme que j'ai vu. C'était celui de Johnny Westmuller dans Tarzan. J'ai prétendu que j'étais fascinée par l'Afrique et que je voulais voir tous les épisodes. Quand il en passait un à la télé, c'était la fête. Je suppose que toute ma vie érotique s'est construite à partir de là. Mon attirance pour Tarzan. À l'école maternelle, j'étais toujours fourrée avec un petit copain qui était très calme et studieux, contrairement aux autres garçons. J'étais fascinée par ses yeux, qui avaient tant d'expression que cela nous dispensait de parler. On est resté pendant des heures à se regarder et à se tenir la main, sans jamais penser à aller plus loin. Ma grande sœur amenait des copains plus âgés à la maison, et je me cachais dans un petit coin pour les regarder. Plus ils étaient grands et costauds, plus je me régalais à les observer. J'étais amoureuse de mon cousin. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que dit Blanche Cardin à ce sujet ? Les cousins ont été créés pour éviter l'inceste entre frères et sœurs. Je vous laisse y réfléchir. J'étais donc amoureuse de mon cousin, qui avait un beau nez plein de caractère. Un peu comme l'acteur Lambert Wilson. Par la suite, j'ai toujours recherché ce type de nez chez les hommes. Très jeune, j'ai développé un goût pour la natation. Mes parents croyaient que j'avais un tempérament sportif. En fait, j'étais fascinée par le corps des garçons. C'était le seul endroit où je pouvais les observer, apprécier les dos, les épaules en plein travail et surtout, deviner les reliefs moulés par le caleçon. Pendant des années, je suis allée nager tous les jours pour me nourrir de ces images. Quand j'étais adolescente, j'ai fait une collection d'images d'hommes nus ou presque. Oui, c'était très difficile à trouver. C'était souvent des publicités ou bien des photos de films ou alors des clichés de danse contemporaine. On dansait parfois à poil à cette époque. Quand ma mère est tombée dessus, car elle fouillait ma chambre, elle a été horrifiée. Vraiment horrifiée. Bien plus que s'il s'était agi d'un garçon collectionnant des photos de femmes nues. Je pense qu'elle a cessé de me considérer comme sa fille à partir de ce moment-là. Chronique du torse. Dans une publicité pour une boisson gazeuse, un groupe de filles qui se prélassent dans un parc au soleil voit passer un jardinier qui tond la pelouse en contrebas. L'une d'elles lui lance une canette qui roule le long de la pente. Quand il la récupère et l'ouvre, la boisson l'asperge copieusement. Les filles se gondolent. Qu'à cela ne tienne, le mec retire son t-shirt. Apparaît alors une plastique à couper le souffle, musclée, moelleuse, sculptée, charpentée, souple, soyeuse. Tout en courbe et en force, c'est bien simple, les filles s'en décrochent la mâchoire. Lui sourit, ironique et beau, et reprend son labeur, sur quoi elle rit de plus belle, non plus narquoise, mais séduite jusqu'au trognon, picotée de désir. Ce clip est un signe des temps. Le corps des hommes commence à exister culturellement parce que le regard des femmes commence à exister ouvertement.
L'effet de cette publicité sur les spectatrices est remarquable. Au contraire de ce qui se passe avec les autres spots, ennuyeux dès la deuxième vision, elle salive à chaque reprise, sachant ce qui va se dévoiler. Regardant chaque fois un autre centimètre carré de la peau du beau gosse. Les hommes sont un peu incrédules devant un tel enthousiasme, mais enfin, il ne fait jamais qu'enlever son t-shirt, on ne voit que son torse.
Eh bien oui, mais quel torse ! Quel nombril, quels abdos, quels pectoraux, quelles épaules, quels biceps. Et puis, comment il l'enlève ce t-shirt ? Et vise un peu le sourire. Et je ne te parle pas du regard, de ce nez parfait, de ses sourcils et sa façon de marcher. L'as-tu vu sa façon de marcher ? quand il s'éloigne de dos. La courbe qui ondule, le port de tête. Non, ce mec, faudrait une heure pour le mater. Là, j'ai à peine commencé.
Si un clip bien tourné peut faire un tel effet, ce n'est pas parce qu'il atteint des sommets d'érotisme. C'est en raison de la pénurie ambiante. Nous avons si peu de quoi nous rincer l'œil que la moindre épaule nous donne des bouffées de chaleur. Le regard des femmes est au régime pain sec depuis la nuit des temps.
Chronique de la mobilité.
Dans le corps d'un homme, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la forme, c'est le mouvement. D'abord et avant tout, comment il marche.
Oh, il y a des démarches craquantes qui suffisent à me faire suivre une silhouette.
Parfois les hanches déliées, parfois les mains dans les poches, parfois le chaloupé des épaules, parfois le port de la tête, parfois l'optique féline, parfois le tracé carré. Il y a mille façons d'être un beau marcheur. La façon de s'asseoir, la façon d'enfiler une veste compte aussi. Fait-il de beaux gestes amples, balancés, bien finis? Une position ratée dans un fauteuil pour vous ruiner une idylle. La façon de tendre la main, de tenir une cigarette, de se retourner, d'entrer dans une voiture, de monter un escalier, de se pencher pour nouer un lacet. Tout compte dans la chorégraphie de l'attraction. Le test ultime se déroulera sur la piste. Un homme qui danse bien, c'est aussi rare qu'un diamant, aussi irrésistible qu'une génoise au chocolat, impossible d'en détacher les yeux. Lorsqu'une amie ou connaissance me parle d'un homme qui adore danser et qui se déchaîne sur la piste, je ferai n'importe quoi pour pouvoir aller danser avec eux et m'offrir ce plaisir des yeux. Parfois, c'est surtout de l'enthousiasme ou de la bonne volonté, mais la grâce n'y est pas. Il s'agite, il s'essouffle, il ne séduit pas. Mais s'il s'agit d'un authentique danseur, un homme qui se fait kidnapper par la musique et qui oublie radicalement le reste du monde, alors je bois ma ration de miel pour la nuit.
Vue de dos. Tu as les fesses douces et puissantes, avides, suaves, provocantes. Je les caresse pour moi, sans doute plus que pour toi. Je les devine en permanence. Tu n'es plus jamais habillé devant moi.
Je suis tombé amoureux d'un cul et je me suis aperçu qu'il avait des yeux.
Eh bien moi, je suis tombée amoureuse d'un regard et je me suis aperçue ensuite qu'il avait un cul. Du plus loin que je me souvienne, j'ai aimé regarder le sexe des hommes. Par curiosité d'abord, pour l'excitation ensuite, mais aussi par émotion esthétique. Dans toutes mes relations, j'ai passé une partie importante du temps de l'amour à contempler, flatter, cajoler l'anatomie de mon partenaire. Contrairement aux autres parties du corps, je trouve que le sexe est toujours beau. Peut-être parce qu'il est toujours vrai. Ne répondons pas aux volontés de son propriétaire. Il ne peut pas avoir l'air emprunté, maladroit, hypocrite, prétentieux. Il est pure vérité biologique et émotionnelle. Qu'il soit tendu ou au repos, il y a toujours quelque chose d'infiniment émouvant. Le sexe des hommes est leur partie la plus fière et la plus fragile. C'est le raccourci lyrique de leur personnalité. La dernière phrase au bas d'un poème qui le fait exister. Moi, je ne demande qu'une chose. Qu'on puisse admirer les babioles masculines comme on admire les fleurs.
Lors d'une promenade en forêt, un chien blanc me dépasse en courant pendant que son maître le rappelle en arrière. L'animal continue à fond la caisse pour aller rejoindre un autre grand chien noir de la même espèce, un labrador, je crois. Le maître s'époumonne toujours pour le faire revenir. Les deux chiens s'en donnent à cœur joie dans les cabrioles. Je les regarde avec ravissement, pour une fois qu'ils s'amusent. Mais l'autre maître aussi prétend les séparer. Ils interviennent physiquement tous les deux. Les chiens sont maîtrisés, remis en laisse, remis au pas. On n'en parle plus. Pourtant, c'était la beauté même, leurs ébats. Qu'est-ce que ça pouvait bien faire à ces deux dictateurs que leurs chiens soient heureux? En les regardant, je pensais à nos fantasmes qui parlent tout seuls au grand galop pour s'ébrouer dans la forêt. Ils ne demandent qu'à vivre, oui, mais nous ne sommes pas d'accord pour les laisser filer ainsi, hors de contrôle. À peine une pensée incongrue nous traverse-t-elle l'esprit, c'est un escadron de censeurs qui nous tombe dessus. Une part de nous-mêmes vouée à domestiquer l'autre. L'amour obscène, violent, grotesque, en public, homosexuel, à plusieurs. Impossible. C'est dégoûtant. Ce n'est pas moi, vite, la laisse.
Le plaisir lui-même est perçu comme un animal trop sauvage pour courir seul. Je pense à cette femme qui venait chez le sexologue parce qu'au moment où l'excitation commençait à l'emporter, elle voyait soudain surgir le visage de sa mère à côté du lit. Ou cette autre qui rapporte à 80 ans qu'une fois, une seule fois dans sa vie. Quelques semaines après son mariage, elle a senti un énorme trouble s'emparer d'elle pendant le coït, son corps entier basculant dans le chaos, sur quoi son mari a tout interrompu en lui demandant d'un ton choqué.
Mais qu'est-ce qui te prend ?
C'était le plaisir qui la prenait. Il n'en a pas voulu. Elle n'en a plus jamais eu. Comme si plaisir et fantasme menaçaient l'ordre public. Comme si la promenade en forêt pouvait renverser la productivité des usines. Comme s'il fallait choisir une seule personnalité en soi et bâillonner toutes les autres. À mon sens, mon fantasme, c'est bien moi. Mais un autre moi, clandestin, créatif, goulu, galopant, amoral et splendide. Je ne confonds jamais les cabrioles de mes fantasmes dans la forêt avec la nécessité de respecter le code de la route quand je roule en voiture. Autre circonstance, autre règle du jeu, autre personnalité. Où est le problème ?
Marlène habille les hommes. Dans le domaine de la mode, il semblerait qu'on ait tout essayé. Depuis l'époque des cavernes jusqu'au XXIe siècle, hommes et femmes ont porté tout ce que l'imagination humaine a pu inventer. Tout ? Non. Il reste une petite partie du corps qui n'a jamais été étudiée, jamais mise en valeur. On dit que le sexe masculin mène le monde, c'est vrai, mais on ne l'habille pas. On ne le souligne même pas. S'il est là, c'est barricadé derrière un rempart qui le gomme. Les seins des femmes ont été moulés, sculptés, rehaussés, voilés et dévoilés de toutes les manières possibles. Mais le sexe des hommes, malgré son relief engageant pour l'imagination, est rigoureusement absent des dessins de mode.
Or, ça me plairait bien à moi de voir danser leurs bibelots quand ils marchent dans la rue. Exactement comme les femmes font rebondir leurs seins. Dans l'une de mes vies possibles, je serai styliste et je dessinerai une collection de vêtements qui épouse le sexe des hommes. Un étui pour le pénis, une trousse pour les testicules, en différentes tailles, différentes matières, différentes élasticités, différents imprimés, avec ou sans fermeture éclair, ou bouton pression pour un accès rapide. Ainsi magnifiés, ces messieurs gambadant sur les chemins, valsant des génitoires, et capables, dans les modèles élastiques, de signaler à tout moment s'ils sont ou non dans un état intéressant.
Les esprits chagrins se replieront sur un argument pratique. C'est techniquement très compliqué. Imaginez le détail des découpes et des coutures, on s'arracherait les cheveux. « Halte là, répondrai-je. Vous avez bien admis l'idée de fabriquer des gants qui ne comptent pas moins de 5 doigts dans la plupart des cas. sauf pour les menuisiers, évidemment. Votre objection est fallacieuse et ne recouvre qu'une paresse injustifiée, à moins qu'il ne s'agisse d'une résistance morale. Ranger les outils au garage et ne plus y toucher en dehors des grandes occasions. Voilà le programme auquel se réduit le front de la sexualité rangée. Un peu de frime et beaucoup de castration. Eh bien, je dis non et j'invite chacun à s'inscrire via Facebook au front de libération de toutes les parties. Le signe de ralliement sera le port du gant pénien en jersey rouge.
Justine grimpe les étages. Que j'aime l'expérience de porter des talons. Je ne me sens pas seulement une autre femme, je suis une autre femme, indiscutablement. Je me tiens autrement, je marche autrement. Je centre et en action de nouveaux muscles qui dormaient jusque-là. Ma poitrine occupe un rôle tout différent dans l'économie du corps. Comme si on l'avait poussé sous les projecteurs, mon port de tête se transforme complètement, coiffant une autre pyramide de force qui étire ma nuque. Et mon corps, étant soudain celui d'un autre personnage, mon mental s'adapte immédiatement en devenant une autre personne. J'ai d'autres vues sur l'existence, d'autres projets qui se dessinent, d'autres perspectives pour ma vie et d'autres plans pour terminer la soirée. Je suis capable de reluquer les fesses des mecs. Je les observe en me demandant s'ils seront bons au lit. Je peux les draguer s'ils m'adressent, ne fût-ce qu'un sourire. Quand je hausse mes talons, ce n'est pas en vue d'aller draguer. C'est juste pour changer, ou pour aller avec cette robe, ou parce que la soirée s'annonce mondaine et donc statique. Et puis, à peine perché et ondulant dans le corridor, je me transforme en quelqu'un d'autre. Alors, j'explore ce que serait la journée ou la soirée d'une femme consciente du corps en permanence. Je jauge tout ce qui passe à ma portée. J'ai des conversations à double sens. Je me mets à aimer le champagne, à raconter des blagues, à harponner des hommes par le revers du veston. Les talons sont un aphrodisiaque redoutable qui hausse le regard au niveau du désir.
Acceptez, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. The only one. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Eh bien, c'est chaud, dites-moi. Comment c'est vous avez vrai. Choisi ces textes-là ?
On a principalement puisé dans le livre Le Salon des Confidences de Elisa Brune.
Et oui, et on précise qu'on a choisi ce livre parce qu'il est à la bibliothèque de Vineuil. À la bibliothèque de Vineuil, on nous a demandé cette lecture pour inaugurer une nouvelle classification des livres. Et donc, il y a désormais dans les rayonnages une nouvelle classification qui s'appellera érotisme.
Un rayon érotisme.
Un rayon érotisme à la bibliothèque.
Il est en hauteur.
Oui. Non, ce n'est pas un rayon qui est qui est à part dans un petit coin d'une pièce. Non, non, non. Les livres sont mis au milieu des autres. Simplement, ils ont une classification sur la couverture du livre. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer.
Et c'est intéressant cette remarque sur le fait. Est-ce que ces livres sont en hauteur ? En fait, là, c'est bien d'assumer ces choix de lecture. Il n'y a rien de submersif. Et c'est un désir et un plaisir de lire qui doit être assumé.
Mais il y a quand même une petite explication à donner. Parce que quand tu lis et qu'on entend une femme qui dit « J'adore regarder les sexes des hommes », au premier degré, c'est toutes les mêmes, quoi. Ça peut être pris comme d'assez...
Mais en fait, pourquoi ce serait dérangeant qu'une femme aime regarder le sexe d'un homme ? Au même titre qu'un homme aime regarder une femme nue.
Parce que là, on a une réflexion en se disant que le désir de la femme est tout à fait acceptable au même titre que n'importe quel autre. Mais dans le regard du macho, dans le regard du macho, c'est... Toutes les mêmes, elles ne pensent qu'à ça.
Et tant mieux si on bouscule les machos.
Là, aujourd'hui, on bouscule. Ouais.
C'est pas simplement les machos. Il faut savoir que les femmes ont un regard aussi difficile entre elles. Une autre femme peut juger une femme plus libre qu'elle. Donc on n'est pas là aussi pour critiquer seulement les hommes. Hein. Attention, les femmes sont aussi dures avec cette histoire de désir. Pas si facile que ça d'assumer.
C'est vrai. Mais je découvre, là, parce que ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Bien, lire des textes vantant la femme objet n'aurait pas été dans l'état d'esprit de Studio Joseph, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Hein ? Donc, on continue. Enfin, j'espère.
L'auditeur que Dominique vient de lire sa phrase. Là. Il n'a pas vraiment mis le ton. Mais enfin, bon.
Vous voulez que je la refasse ?
Allez, on
reprend.
Donc,
alors, du coup, quelle musique je lance là maintenant ?
Le jingle normal.
Le jingle
Vas-y,
normal.
Vas-y, Dominique.
C'est parti.
J'ai un jour remporté lors d'un concours un séjour d'une semaine dans un domaine naturiste. Je suis une grande fan des balades en bord de mer, seulement ici, là, dans ce domaine. Je ne pourrai en profiter que si je me promène toute nue. J'installe mes affaires dans la chambre et décide de commencer par tester les transats, puis d'aviser le lendemain pour le reste. Mais au bout d'une heure de bronzette, j'en ai déjà marre de ne rien faire. En outre, la caresse du soleil et du vent sur ma peau me donne envie de bouger, pour en profiter mieux. Je me lève et me dirige vers la plage, assez gênée de marcher nue, comme tous les naturistes débutants, j'imagine. Mais dès que je m'éloigne de l'hôtel, je suis à peu près seule. Et je peux tout à loisir me consacrer à ressentir ce qui se passe. Depuis le premier pas, je suis troublée par le fait de sentir mon propre corps. Expérience inconnue en maillot de bain. C'est sans doute la liberté des seins qui fait cette différence, leur balancement, plus la caresse de l'air sur les pointes me donne une conscience aiguë de leur présence. Je n'ai jamais eu autant de poitrine. L'autre conscience naissante est celle des fesses, qui elles aussi dansent et frémissent dans la brise tiède. Je marche, et ne suis plus que seins et fesses, fesses et seins, quatre coussins voluptueux qui se gorgent de sensations. Je ferme les yeux, j'ai le tournis. La sensation devient embarrassante. Si j'étais un homme, je serais en pleine érection. Chez une femme, heureusement, ce n'est pas voyant. Mais je suis de plus en plus gagnée par une envie impérieuse. Je ne savais pas ou plus que l'on peut avoir faim à ce point-là. Le vent, ça alors, le vent! Voilà l'amant le plus doué de la terre! Je suis chaude comme un four. Mais comment faire ici toute seule sur cette plage? Les dunes, ah oui, les dunes. Vers l'intérieur, il y a des dunes et quelques bosquets. J'explore les lieux. Personne alentour. Je trouve un coin abrité et tant pis pour moi ou tant mieux, je renoue avec les vieilles méthodes. Le besoin est trop cuisant, aussi fort qu'une envie urgente de faire pipi. Je me touche au plus pressé et il suffit de 30 secondes pour m'envoyer dans les étoiles. Waouh ! Sidérée par ma propre mécanique si poussive à la maison et soudain plus rapide qu'une Formule 1. Le séjour s'annonce torride et aucun homme d'aucune sorte n'y a contribué. C'est mon corps qui renaît tout seul comme une plaine de Sibérie après l'hiver. Je ne savais pas qu'il y avait tant de fleurs sous la neige. Qui se connaît? Qui se parcourt? Qui sait ce que veut son corps avant de gagner un voyage par hasard?
Chère Caroline, Madrid est une ville de désir qui se roule au soleil, tout entière exposée dans la rue, très sérieusement occupée à faire la fête. Vous seriez heureuse ici, comme un chat dans une crèmerie qui ne sait plus où donner des babines. La densité des terrasses, l'étendue des jardins, la richesse des musées, la diversité de la foule, sans aucun doute, c'est le paradis sur terre. Et l'ambiance du samedi soir, c'est presque impossible à décrire. À 4 heures du matin, la foule est encore plus serrée qu'à 10 heures du soir, où ça déménage déjà. Et ce n'est pas dans une rue, ni dans 10, mais dans toute la ville, comme après un match de football, sans compter les 20 degrés de plus qu'à Paris. À propos de paradis, j'ai vu celui de Jérôme Bosch au Prado, celui qui montre combien l'imagination est plus fertile dans les supplices que dans les délices. À nous deux, nous allons renverser la vapeur. Voulez-vous ? Vous êtes aussi bien placé que moi pour imaginer un jardin de délices plus chatoyant que n'importe quel enfer. Si vous aviez le pouvoir de m'atteindre à votre guise, quel geste feriez-vous ? Vers quel supplément de vie pourriez-vous me pousser ? Geste poétique ou geste érotique ? Tout m'enchante. Par exemple, vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu aujourd'hui dans une salle un peu excentrée du musée du Prado. Une femme que son partenaire venait de chauffer en l'embrassant délicatement devant une mature morte a jeté un coup d'œil alentour, puis a retiré prestement sa culotte qu'elle a jetée dans son sac. Je n'étais pas dans la pièce, mais dans une pièce voisine, dans une salle voisine, et j'ai saisi la scène grâce à un miroir indiscret. Le string était rouge et je n'oublierai jamais cette image. Je donnerai sans doute quelques années de ma vie pour pouvoir être une femme et marcher sans sous-vêtements dans le musée du Prado. Je pense d'ailleurs que l'expérience mérite d'être vécue en tant que telle, sans attendre qu'un homme plus empressé que les autres vous la suggère. Caroline, si vous aimez la vie, faites-moi cet honneur. Allez passer un samedi matin dans le musée du Louvre ou à la bibliothèque de Vineuil et allez une fois sur place passer dans les toilettes pour installer la liberté sous votre jupe. Avant de commencer la visite, déambulez ensuite entre les livres, vous ne pourrez plus douter du lien entre la culture, la lecture et la sexualité. La jeune femme à la perle. L'obscurité recouvre encore la chambre. Le chat en cercle veille sur le silence. Une ombre fœtale repose sous les draps qu'un souffle léger murmure, une âme endormie. Une lueur de matin semble poindre, la tourterelle chuchote des mots d'amour. Une mèche cache des yeux encore clos, une main alanguie recentre la chaleur. La belle est prisonnière de Morphée. Des songes diffus peuplent son esprit, combat et abandon, fracas et volupté. Dehors, les brumes déposent en rosée des gouttelettes sur les feuilles du jardin, secondant se condense le matin. La belle s'anime, corps et rêves se scrutent, chacun en quête de sa moitié. Se trouveront-ils ? La jeune femme lutte, s'agite, repousse les assauts, érige des barrières. Mais quel est cet autre qui sournoisement s'invite au réveil ? L'aurore a repoussé la noirceur, une fine pluie fait sonner sur le toit des harmoniques mineures, des ardoises luisent sous l'ondée. Les yeux s'ouvrent, puis se referment. La belle retourne vers les moiteurs matinales. Une onde souterraine diffuse une fièvre au centre de son corps. Ne plus résister à l'attirance du mystère, s'abandonner à l'énergie créatrice, la peur de la mort n'est rien comparé à l'appel de l'amour. La belle accorde son souffle au rythme de sa chair, sa nuque altière se tend vers la caresse et le baiser. Dehors, c'est la tempête. Déméter, mère de la terre, fait rugir des forces telluriques. Les vierges noires exercent leur pouvoir. La vouivre ondule et se dresse. Des flots soudainement jaillissent une source inconnue, eau limpide, parfumée et tiède. La belle étouffe un long cri, profond et suave. Violence, puis silence. Il n'y a plus de nuit ni de jour, seul l'instant fusionnel qui unit la femme au monde qui renaît. Les nuages s'écartent. Du fond de l'océan, une conque apparaît, une douce lumière bleue irradie l'espace. La belle s'éveille. Une larme coule sur sa joue, perle de nacre, fruit de tous les zéphyrs. Vénus sort de son rêve.
Ode à l'homme nu. Quand il est nu, il est plus nu qu'un autre. Sa nudité est toujours érotique. Son corps laiteux s'efface derrière le fruit du sexe. Le moment où il se découvre me retourne le ventre. J'aime qu'il aime à ce point se déshabiller devant moi. En tout autre lieu, il est plus que pudique, pudibond. Mais pour moi, il s'apprivoise, s'exhibe, avec un plaisir affolé. Je veux qu'il en soit ainsi et pas autrement. Je veux qu'on sache la valeur des gestes et qu'on la protège. Il est expert à ce jeu, et je le contemple, béate, échauffée, apeurée. Il ne s'avance jamais le premier, mais si je l'entreprends, je le découvre à fleur de peau. Quand il s'occupe, se préoccupe et pense à tout sauf au sexe, quand il lit, bricole, cuisine, s'endort ou regarde le football, je n'ai qu'à poser ma main à l'endroit si précieux pour le voir me l'offrir aussitôt, grognant, gourmand, déjà perdu dans le lagon des caresses. Cette générosité bizarre, flamboyante, me donne des décharges au cœur. Je n'ai pas l'intention de trouver tout cela naturel.
Puis, à ce moment-là de notre lecture, je me tourne vers Dominique, je demande à Suzanne de se lever, puis d'aller s'installer le plus confortablement dans un canapé que nous aurons mis dans la bibliothèque de Vineuil. Et une fois Suzanne installée, je demande aux gens qui seront présents, on l'espère, d'avoir quand même un petit peu d'imagination. Et je commencerai ainsi. La très chère était nue. Et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur, qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quand il jette en dansant ce bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer. Et du haut du divan, elle souriait d'aise à mon amour profond et doux comme la mer, qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait des poses. Et la candeur, unie à la lubricité, donnait un charme neuf à ses métamorphoses, et son bras, et sa jambe, et ses cuisses, et ses reins polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, passait devant mes yeux clairvoyants et sereins, et son ventre. Et ses seins. Les grappes de ma vigne avançaient, plus câlins que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise, et pour la déranger du rocher de cristal, où, calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir unies par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope, au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin. Sur ce teint fauve et brun, le phare était superbe. Et la lumière s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il lançait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'an.
Sous la violence de leur bébé. la beauté que j'adore, car elle m'a appris à aimer et à comprendre la laideur.
Bien, peut-être pourrait-on redire que les textes que vous avez choisis, vous avez choisi ces textes-là parce qu'ils parlent du désir féminin qui est d'habitude mis un peu sous le boisseau, qui n'existe pas.
Qui n'est pas le sujet ordinaire de cette émission, on peut le dire comme ça.
Oui.
Mais nous avons fait avec Suzanne cette lecture à la demande de la mairie de Vineuil.
On s'est vite pris au jeu, en fait, parce que c'était très intéressant. Alors là, il y a plusieurs points de vue, attention, hein, ce sont plusieurs témoignages de plusieurs femmes qui ont des ressentis différents. Donc il y a tout un pan de l'expression du désir féminin. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage-là, on n'a lu que quelques pages, il y a vraiment des pépites, parce que moi qui suis une femme, j'ai appris beaucoup de choses en lisant cet ouvrage. Sur la sexualité qui est un champ d'exploration infini, mais aussi sur la notion de désir, en fait. Et il y a un élément qui fait beaucoup de bien, c'est le côté déculpabilisant des fantasmes et du désir. Rien n'est sale, en fait, tant que ça reste dans le respect.
Oui, il faut bien le dire comme ça, parce que...
Bien sûr, et qu'il y a consentement.
Le désir des femmes, justement, si on n'en parle pas, c'est que c'est toujours...
Tabou.
Suspect. Mmh. C'est tabou et c'est suspect. Une femme qui parle de son désir, c'est forcément quelqu'un de vil, pourrait dire.
Je pense que les choses évoluent quand même. La génération des jeunes femmes de 20 ans...
Oui, bien sûr. Le seul fait qu'on fasse cette émission, c'est effectivement le signe que les choses évoluent. Mais ça évolue doucement. Hein.
Doucement. Doucement. Mmh.
En tous les cas, Suzanne disait tout à l'heure que pendant nos répétitions, parce qu'on a quand même pas mal répété, tu avais appris des choses, découvert des choses.
Oui, bien sûr.
Et pour ma part, c'est un petit peu pareil. J'avoue que je suis un homme très ordinaire. Enfin, quoique les auditeurs devraient me voir quand même. Malgré tout, j'ai
été
étonné par la liberté de ton du livre qui nous a donné à nous une liberté d'expression pendant nos répétitions, vraiment. Et c'était très agréable.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est important qu'on parle de ces choses-là.
Exactement, oui. Dont on n'a pas l'habitude de parler au quotidien, quand même. Hein. Il faut le dire.
Mais il faut en parler avec un peu avec du recul.
Tout à fait. Hein. Oui, ces précisions sont importantes. C'est vrai. Voilà.
Peut-être qu'on pourrait rappeler le titre du livre.
Ça se fait habituellement en fin d'émission.
Habituellement. Donc ça s'appelle « Le salon des confidences » par Elisa Brune et c'est paru aux éditions Odile Jacob en 2013.
Et il y a un sous-titre « Le désir des femmes et le corps de l'homme ».
Et le corps de l'homme.
Tout est dit.
Merci à vous deux. Merci Suzanne de nous avoir rejoints pour cette émission.
Avec plaisir, c'est une belle expérience. Merci Hervé.
Donc cette émission va être diffusée le vendredi 10 mars. On aura peut-être une rediffusion
le 17
par la
mars.
Suite. Et puis pour le reste, eh bien, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle lecture. Je vous rappelle que l'émission est diffusée le vendredi après-midi à 14h et que sinon vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Studio Zef. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.